Il est 5h sur Europe 1. À la une, ce matin, les premières lettres de mobilisation arrivent dans les boîtes aux lettres en Russie. Depuis l'annonce de Vladimir Poutine, de nombreux Russes fuient le pays par tous les moyens. Nous les avons rencontrés à la sortie de l'aéroport d'Istanbul, en Turquie. C'est votre rendez-vous tous les vendredis sur Europe 1, les vendredis thématiques face aux dérives. Faut-il fermer les réseaux sociaux? Nous entendrons le témoignage poignant de Léo. Léo déscolarisé après avoir été cyberharcelé par ses camarades de classe. Et puis, objectif 40% d'énergie renouvelable de plus d'ici à 2050. Emmanuel Macron veut aller deux fois plus vite. Où en sommes-nous aujourd'hui? On fait le point dans ce journal. Le journal de 5 heures présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Protester, lutter, fuyer, l'appel de Volodymyr Zelensky aux 300 000 réservistes russes dont la mobilisation a été annoncée avant-hier par Vladimir Poutine. La fuite, beaucoup ont choisi cette option en Russie. Les vols pour quitter le pays sont pleins à craquer. Pour la poignée de billets encore disponible aujourd'hui à destination de la Turquie, le moins cher est affiché à plus de 1100 euros. Mais tant pis, les déserteurs partent. Notre correspondant européen en Turquie, Rémi Trio, les a rencontrés à la sortie de l'avion.
Dans le hall d'arrivée de l'aéroport d'Istanbul, Piotr a l'air un peu perdu, mais soulagé. Ce développeur informatique de 29 ans arrive de Moscou avec un ami et il peine encore à croire qu'il a réussi à fuir.
On ne pensait pas qu'on allait y arriver. On croyait vraiment qu'à n'importe quel moment, quelqu'un allait surgir pour nous remettre un ordre de mobilisation. J'aime me dire que je me serais rendu si j'avais été mobilisé, mais bien entendu, j'aurais été terrifié et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Jusqu'au décollage, c'était très stressant.
Avec une petite valise chacun, Anton et Anastasia viennent aussi d'atterrir en Turquie.
Elle avait un peu peur pour moi.
Pas juste un peu.
Tout juste mariés, ils ont eu de la chance de trouver une place sur un vol pour quitter leur pays.
Les gens ont peur de recevoir leur ordre de mobilisation. Les prix des vols ont été multipliés par 3. Un billet coûte environ 2000 dollars.
Malgré ces prix élevés, tous les vols entre Moscou et Istanbul affichent complet jusqu'à la semaine prochaine et ces jeunes déserteurs ne prévoient pas de rentrer en Russie. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
Des réservistes qui fuient, donc un d'autres se présenteraient d'eux-mêmes. Près de 10 000 se sont portés volontaires selon l'état-major russe hier.
Et en Ukraine, c'est le début aujourd'hui des référendums annoncés par Moscou.
Référendum sur l'annexion de ces territoires ukrainiens par la Russie. Le vote commence aujourd'hui et se déroulera jusqu'à mardi sur les bulletins qui seront distribués dans le Donbass, par exemple. On peut lire « Êtes-vous favorable à ce que la République populaire de Donetsk devienne un membre à part entière de la Fédération de Russie ? Oui ou non.
Un vent de révolte toujours en Iran après la mort il y a 10 jours d'une jeune femme arrêtée parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile.
17 morts depuis ce week-end selon les médias d'État. 31 rapportent les ONG. Le chef d'État iranien Ebrahim Raisi a assuré hier que la mort de la jeune femme ferait l'objet d'une enquête, mais précise que le rapport du médecin légiste ne fait état d'aucun abus de la part de la police que contestent les manifestants. Conséquence, les autorités ont bloqué l'accès aux réseaux sociaux. Instagram et WhatsApp sont inaccessibles.
Europe 1 5h04, une question volontairement provocatrice ce matin face aux dérives. Faut-il, oui ou non, fermer les réseaux sociaux? C'est notre vendredi thématique, comme chaque semaine sur Europe 1.
Eh bien, cela aiderait en tout cas quelques enfants à l'image de Léo. Je vous propose ce matin d'écouter son histoire. Il devrait être scolarisé en 3e au collège d'Épône dans les Yvelines aujourd'hui. Mais voilà, depuis 6 mois, il ne peut plus y aller et apprend depuis chez lui. En cause, un harcèlement scolaire de la part de ses camarades qui continuait sur Internet une fois rentré à la maison le soir. Léo et sa maman, Leslie, nous racontent ce calvaire.
Léo, en fait, il faut savoir qu'il fait de la danse. C'est parti de là. Sur un groupe WhatsApp qu'il avait avec sa classe, ils ont commencé à l'insulter.
Et c'est là où il y a eu les menaces de mort et tous les messages méchants. En fait, moi, je voulais plus entendre parler de ces messages et je voulais plus les voir. Et j'avais honte aussi, du coup, j'avais tout supprimé.
C'est une copine à Léo, en fait, qui s'est dit que ça allait beaucoup trop loin et qui, elle, m'a envoyé en fait les captures d'écran. Et donc là, suite à ça, j'ai pris le téléphone à Léo et c'est là où j'ai eu tous les messages. On arrêtera quand tu seras mort. De toute façon, tu mérites pas de vivre, etc., etc.
En fait, je pensais aussi que c'était de ma faute, que j'étais pas normal et tout.
Il allait au collège quand même avec la peur au ventre. Il a quand même été sous antidépresseur. On a décidé du coup de le déscolariser, de faire l'instruction à la maison.
C'est compliqué pour moi d'aller au collège et de passer devant mon ancien collège et tout. Je peux même pas.
Avec son papa, on a mis une application qui bloque les applications style Instagram, Facebook. Enfin, voilà, là, Léo a créé du coup un compte Instagram sur mon téléphone où j'ai son code, où je peux avoir accès à toutes les communications. Et c'était la condition sine qua non. Normal, hein, c'est de son âge aussi, hein, tous ses copains l'ont. C'est surveillé plus, quoi.
Léo et sa maman Leslie, joints pour Europe 1 par Johan Tritz. Et en cas de harcèlement scolaire, un numéro existe, le 30-20. Parents, élèves et profs peuvent appeler.
Plus d'éolien, plus de nucléaire. Emmanuel Macron veut accélérer sur le volet énergétique.
Il l'a dit hier à Saint-Nazaire, hein, à l'occasion de l'inauguration du tout premier parc éolien en mer. Il faut aller deux fois plus vite, produire 40% d'électricité en plus d'ici 2050. Un plan très ambitieux qui passera évidemment par les énergies renouvelables. On cite, hein, notamment le solaire. Et d'ailleurs, Baptiste Morin, on a battu un record cet été.
C'était le 7 août dernier, à 14h, la France battait son record de production d'électricité solaire. À ce moment-là, le parc photovoltaïque français produisait autant que 10 centrales nucléaires réunies. Un record en trompe-l'œil, car la production d'énergie solaire part de loin, de très loin même. En France, moins de 3% de l'électricité est produite grâce au soleil. La puissance installée est de 14 gigawatts. Il faudrait la multiplier par 7 pour atteindre l'objectif fixé par Emmanuel Macron d'ici 2050. Mais comme l'explique Nicolas Leclerc du cabinet de conseil Omnegy spécialisé dans le secteur de l'énergie, il faut de la place.
Pour couvrir la puissance d'une centrale nucléaire, il faudrait environ 1000 hectares. Étant donné que le solaire ne produit un quart du temps à pleine puissance, il faudrait l'équivalent de 4000 hectares.
Alors le projet de loi cible justement le foncier disponible, les parkings de la SNCF ou ceux des enseignes de supermarchés, avec l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques, les espaces délaissés autour des autoroutes avec l'installation de panneaux solaires au sol ou à nouveau en ombrière sur les aires de repos. Et puis il y a le projet à plus long terme de l'agrivoltaïque, l'installation de panneaux solaires au-dessus des parcelles agricoles pour concilier production d'énergie et production alimentaire.
Précision signée Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Il est 5h07. Le procès de Millas, celui de la collision entre un bus scolaire et un train qui avait fait 6 morts il y a 5 ans, avec un incident hier dans la salle d'audience.
Oui, hein, Nadine Oliveira, la conductrice du car, seule mise en cause dans ce procès, s'est effondrée, bousculée dans les débats par les différents témoignages, les expertises en sa défaveur. Il a fallu l'évacuer. Le récit de notre correspondant Europe 1, Stéphane Burgat.
Des débats éprouvants, une séance qui tourne court et une seconde semaine incertaine. Nadine Oliveira, partie en ambulance, est dans un état de fragilité psychologique préoccupant, selon son avocat, maître Jean Codoniès.
Après, je ne sais pas ce qu'en diront les médecins, moi je ne suis pas médecin. Elle a fait une tentative d'autolyse il y a 2 mois et demi. C'est un être fragile, qui est pris dans une tourmente épouvantable qu'on ne peut souhaiter à personne. La mort de 6 enfants, quand vous êtes... au volant de l'autocar, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas évacuer de votre esprit. Je veux dire, il faut le comprendre quand même.
Nadine Oliveira, qui est restée cette semaine sur sa position, la barrière du passage à niveau était bel et bien ouverte, selon elle, malgré les témoignages d'automobilistes qui la contredisent, malgré les données de certaines expertises, ce qui fait dire à des parents de victimes présents au procès qu'ils n'attendent plus rien de sa part. Qu'elle soit présente ou non lundi ne change plus grand-chose. Un papa nous glisse même. Pour moi, c'est comme si ce procès était déjà terminé. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
On prend la direction de la Chine maintenant, à la pointe de l'innovation. Cette semaine, on vous a par exemple présenté le premier robot patron d'une entreprise, Alban.
Eh bien, aujourd'hui, on parle de clonage. Des scientifiques viennent de cloner pour la première fois un loup sauvage. Objectif, assurer la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Une technique qu'ils ont testée pendant des années sur les animaux domestiques. La correspondance à Pékin pour Europe 1 de Sébastien Lebelzik.
À partir d'un simple échantillon de peau, les scientifiques chinois ont réussi à créer une copie conforme en laboratoire de ce loup sauvage d'Arctique. La croissance de ce bébé loup, qui vient de fêter ses 100 jours, est une première mondiale. Maya, c'est son nom, va être suivie pendant plusieurs mois avant de pouvoir retourner dans la nature à une réserve du nord de la Chine. Re Jiangming est vice-président du comité national chinois d'experts sur le clonage des animaux.
Les cellules du loup ont été introduites dans les ovocytes d'un chien de race Beagle et reproduites grâce à la technologie du clonage. C'est une très bonne technologie. Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées.
Mais en Chine, le clonage est aussi une affaire de gros sous. Le laboratoire Sinogen, qui a réalisé cette première mondiale, pratique depuis 2019 le clonage des animaux domestiques. Pour cela, un simple échantillon de peau ou de poils est nécessaire et aussi un très gros chèque. Il faut compter 35 000 euros pour un chat, 50 000 pour un chien et 80 000 euros pour un cheval afin d'obtenir le clone de son animal favori. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Allez Alban, c'est vendredi. Pour terminer ce journal, vous nous proposez un peu de musique.
Évidemment, avec le retour en France du meilleur crooner de sa génération, je cite Michael Bublé. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Il se donne pour mission de remplir la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena. Il sera en concert le 24 mars prochain. La billetterie, elle ouvre à 10h aujourd'hui, alors il faut être au rendez-vous. Mais par contre, il faut avoir mis un petit peu d'argent de côté. Prévoyez entre 62 et 403 euros la place.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même.
En tout cas, un peu de feel good à 5h11. C'est gratuit sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Merci Alban pour votre journal de 5h.
Il est 5h11 et on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
Bonjour Dimitri à tous.
On débute par du football avec enfin un coin de ciel bleu pour l'équipe de France.
Et oui, grâce à cette victoire 2-0 face à l'Autriche hier soir en Ligue des Nations, les Bleus stoppent leur série de 4 matchs sans victoire. Une équipe de France séduisante avec un air de 2018 aidé par des buts de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Ce dernier qui a inscrit son 49e but en bleu, il n'est plus qu'à 2 longueurs du record de Thierry Henry. Alors oui, à 2 mois de la Coupe du Monde, Olivier Giroud, flamboyant en club comme en sélection, postule clairement à une place dans le groupe tricolore. Mais est-ce que cela suffira à convaincre Didier Deschamps? Il a donné quelques éléments de réponse à la fin du match.
Est-ce que je vous ai dit qu'il y serait pas ou qu'il y serait? Ni l'un ni l'autre. Faudra attendre le mois de novembre. Mais il fait tout pour faire en sorte d'y être. Tant mieux de ce qu'il a fait. Je sais qu'il est apprécié par le public, mais il l'a été aussi. C'est pas au détriment d'autres. J'aurai le temps de réfléchir avant de prendre mes décisions.
Didier Deschamps au micro de Cyril de la Morinerie. L'équipe de France assure donc l'essentiel avec cette victoire, ce qui leur permet de garder leur destin en main en Ligue des Nations. S'ils l'emportent dimanche face au Danemark, ils resteront dans le groupe d'élite de la compétition.
Tennis maintenant et dernière balle. Il y a un jeu de mots, pardon, je l'ai fait à l'inverse, pour Roger Federer en tout cas aujourd'hui à Londres.
Et oui, la légende du tennis et ses 20 grands chelems s'apprête à disputer le dernier match de sa carrière ce soir en Laver Cup. Et quel match, puisque ce sera en double aux côtés de son éternel rival Rafael Nadal. Dans une conférence de presse émouvante, côte à côte, Roger et Rafa, complices, espèrent réaliser une belle performance.
Faire partie de ce moment historique, ce sera vraiment inoubliable pour moi.
Jouer avec Rafa, c'est un sentiment vraiment différent pour moi. Ce sera magnifique de le faire une dernière fois, j'en suis sûr.
J'espère que l'on va passer un bon moment et gagner le match. Pourquoi pas ?
Après tant d'années de rivalité, la terre entière les verra donc unir leurs forces et leurs talents une dernière fois. Ils seront opposés aux Américains Jacques Sock et à Frances Tiafoe. Une référence pour Roger Federer qui s'annonce donc historique. Match à suivre aux alentours de 22h, heure française. Et enfin, toujours en tennis, un autre Suisse qui a lui créé la sensation hier soir. À 37 ans, Stan Wawrinka s'est offert le numéro 4 mondial, Daniil Medvedev. Une victoire en 3-7 dans le tournoi ATP de Metz, ce qui lui permet de se qualifier en quart de finale de la compétition.
On termine ce journal des sports, Dimitri, par du basket. C'est le mondial féminin qui continue pour nos Bleus.
Et oui, après leur victoire hier 70-57 face à l'Australie, l'équipe de France féminine a parfaitement lancé sa Coupe du Monde. Mais l'idée est maintenant d'enchaîner et pour cela, il faudra batailler aujourd'hui à 10h face aux Canadiennes dans un match d'une grande importance puisqu'en cas de victoire, nos tricolores prendraient déjà une sérieuse option pour la qualification en quart de finale.
Merci beaucoup Dimitri Vernet. C'était les sports sur Europe 1 et on passe aux courses à 5h14, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 114, Hector de Bassière. Idéalement engagé de par les conditions de course et connaissant une réussite exceptionnelle avec son driver David Thomas, puisqu'en 5 sorties ce tandem totalise 3 victoires et 2 secondes places, ces deux-là devraient donc pouvoir une nouvelle fois conclure à coup sûr dans les 3 premiers. premier. C'est en tout cas ce que l'on chuchote dans les milieux bien introduits du trot. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1, dans la première course, le numéro 14, Hector de Bassière.
Merci Thierry Léger, vous revenez nous voir dans une demi-heure avec vos pronostics du Quintet. 5h15, vous êtes sur Europe 1 dans un instant. Une histoire dingue, tiens, pour se réveiller, Anissa va vous raconter un cas improbable de triche sportive. A tout de suite.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Bon réveil, bon vendredi, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Dadi.
Mais oui, ce matin Anissa, pour terminer la semaine en beauté, vous nous racontez cette histoire, ce cas improbable de triche, en tout cas une triche que personne n'aurait pu imaginer.
Alors, asseyez-vous, si vous nous écoutez de l'autre côté de la radio, arrêtez toute activité, prenez 2 minutes. Le monde des échecs est sous le choc. Il y a quelques jours se déroulait le tournoi d'échecs de Saint-Louis, au Canada. Jusque-là, tout est normal. Ce championnat accueillait le multiple champion du monde, Magnus Carlsen, et l'un de ses rivaux, Hans Niemann. Mais c'est un véritable scandale qui vient assombrir ce tournoi. Et tout part d'un tweet. Alors, le tournoi se déroule. Et là, le quintuple champion du monde, Magnus, affole l'univers en tweetant « Je me retire du tournoi. J'ai toujours aimé jouer à Saint-Louis. J'espère y revenir.
Oh »
Bon.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors attendez, ce message est accompagné d'une ancienne vidéo de José Mourinho, en plus, le gars fait les choses bien. Une vidéo qui date de 2014 où l'entraîneur de Chelsea déclare à la presse « Je ne préfère pas parler, si je parle, je vais avoir de gros ennuis. » Voilà. Alors là, c'est la folie. Un quart d'heure après le tweet, l'organisation du tournoi décide de décaler de 15 minutes la rediffusion du tournoi et d'obliger tous les joueurs à subir un scanner à radiofréquence. Bon, une radio de l'intérieur du corps, quoi.
Un scanner à... Ouais. C'est beaucoup de suspense. Il se passe quoi ?
Eh bien, pendant le tournoi, Magnus Carlsen, quintuple champion du monde, a affronté l'Américain Hans Niemann. Alors lui, pas le même niveau. Il est 43e joueur mondial. Il est âgé seulement de 19 ans. Dans ce match, Carlsen, le champion du monde, a perdu face au petit jeune de 19 ans. Et après ce match, il décide donc de partir.
Mauvais joueur.
Alors, c'est-à-dire qu'au moment du tweet, on se dit bon, allez, le message, il est anodin. On se dit tout ce qu'il voulait cacher humoristiquement, sa honte d'avoir perdu à la troisième ronde. Bon, mais attention, il a rapidement changé de ton. Beaucoup d'accusations de triche qui ont fusé contre Hans Niemann, le petit jeune de 19 ans. Surtout de la part du joueur Hikaru Nakamura. Là, je pense que vous suivez tous parce qu'ils sont hyper connus. Tous. Alors, Hans, il avait déjà... Attention, le petit jeune de 19 ans, il a déjà avoué avoir triché plusieurs fois. Une fois à 12 ans, une fois à 16 ans. Donc là, on se dit, bon, Hans
a triché.
Bon alors, la recette de la triche.
Je crois que vous n'êtes pas prêts. Nous sommes sur une méthode révolutionnaire grâce à un plug anal.
Oh là.
Que Hans, je vous dis pas où il l'a mis parce que tout est dans le nom.
C'est la vibration.
Merci pour les bruitages. Alors Hans, il a apporté ce plug anal, ce jouet pour adultes, et un complice lui indiquait les coups à jouer à l'aide de vibrations télécommandées à distance et en Wi-Fi. C'est pas pratique comme triche.
C'est quand même très ingénieux. Il faut quand même saluer la performance.
Alors, il faut saluer la performance. En tout cas, on a une preuve, une fois de plus, que les compétiteurs ne sont pas à court d'idées. Moi, j'attends la prochaine triche. Est-ce qu'on peut faire mieux que le plug anal télécommandé à distance? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a marché. Il a battu le champion du monde.
On est sur du high level. Merci Anissa pour ce généreux partage.
Apparemment, on m'appelle.
Très bon réveil à tous.
On se retrouve dans 10
minutes. Chers auditeurs, 5h19.
Europe Matin.
Vendredi 23 septembre, les titres du premier jour de l'automne, Albane Lefrance.
Les bulletins sont imprimés, les bureaux de vote prêts, les référendums d'annexion de territoires ukrainiens par la Russie annoncés par Moscou en début de semaine commencent aujourd'hui. Le vote aura lieu jusqu'à mardi. En Iran, les manifestations continuent dans tout le pays après la mort d'une jeune femme arrêtée car une mèche de cheveux dépassait de son voile. Au moins 17 personnes sont mortes. Les réseaux sociaux WhatsApp et Instagram ont été coupés dans le pays. Faut-il d'ailleurs les supprimer, ces réseaux sociaux? C'est la question que l'on se pose sur Europe 1 aujourd'hui, vendredi thématique, comme chaque semaine. Eh bien, pour lutter contre les dérives, on apprend qu'Instagram développe en ce moment un outil permettant de bloquer l'envoi de photos à caractère sexuel quand elles ne sont pas sollicitées. Et puis, dans l'affaire du chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne, le maire de la ville, Gaël Perdriau, annonce se mettre en retrait de la présidence de la métropole pour prendre du recul.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
5h20, premier jour de l'automne, et oui, on tourne le dos à l'été. Les initiatives en France sur Europe 1 avec un rendez-vous, tiens, ce week-end, la fête des chiens guides d'aveugles.
Les initiatives en France avec un rendez-vous ce week-end, la fête des chiens guides d'aveugles, ces compagnons indispensables des personnes malvoyantes. Bonjour Alexandra Blanchin.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour parler de ces deux journées portes ouvertes afin de découvrir l'univers des chiens guides. Hein, je reprends vos mots. Elles sont organisées partout en France dans 14 centres d'éducation. Alors ces rencontres, Alexandra Blanchin, sont organisées dans le but de sensibiliser et le grand public et les personnes déficientes visuelles du rôle important qu'apportent ces chiens guides au quotidien.
Exactement, c'est tout à fait ça. Ce sont des journées portes ouvertes pendant lesquelles nos associations ouvrent leurs portes, accueillent le grand public, toutes les personnes qui manifestent un intérêt pour les chiens guides, accueillent aussi bien les donateurs, les familles, les bénévoles aussi qui sont présents dans les associations. Et ça permet en fait de présenter l'ensemble de la chaîne de solidarité qui se mobilise autour de la cause des chiens guides. Et ça permet aux écoles de faire un ensemble d'animations. Généralement, elles font des démonstrations sur l'éducation des chiens guides. Elles donnent aussi des informations autour de la question du handicap visuel parce que le grand public ne sait pas forcément ce qu'est précisément le handicap visuel, les différentes formes, parce que vous avez des personnes aveugles, vous avez des personnes malvoyantes, vous avez des personnes qui ont ce handicap dès la naissance, d'autres, voilà, malheureusement, pour lesquelles ce handicap arrive au cours de la vie. C'est un moment aussi propice d'échanges, de rencontres avec les familles d'accueil, les familles dans lesquelles on confie nos chiens à la sortie de la maternité et avant qu'ils rentrent en éducation. Des rencontres aussi avec des maîtresses et des maîtres de chiens guides. Et on fait aussi un ensemble d'animations ludiques, de mise en situation. On permet au grand public, par exemple, de se déplacer avec un chien guide, de participer à des ateliers sportifs avec les yeux bandés. Voilà un ensemble d'animations qui permettent vraiment de rendre accessible la cause du handicap visuel et de faire la promotion du chien guide.
Expliquez-nous, ce sont des chiens éduqués pour accompagner les personnes malvoyantes. Ils sont éduqués, ces chiens, dès la naissance, hein ? Comment ça se passe ?
Oui, alors en fait, au niveau de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles et des associations qui composent notre mouvement, on a des centres d'élevage, donc on fait naître nos propres chiots, on les sélectionne dès la naissance pour qu'ils aient les meilleures qualités génétiques et comportementales. À l'âge de 2 mois et demi, 3 mois, ces jeunes chiots sont sevrés, quittent donc la maternité et rejoignent les associations. Au sein des associations, il y a des familles d'accueil qui sont chargées d'accueillir ces jeunes chiots, de leur apprendre pendant les premiers mois de leur existence, on va dire, les bonnes manières, la propreté, le déplacement en laisse, l'obéissance. Donc généralement, ces chiots sont placés en famille d'accueil à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois, jusqu'à l'âge d'un an. Et à un an, le chien rentre à l'école pour faire son apprentissage de futur chien guide d'aveugle. Et là, donc, dans les écoles, nous avons des moniteurs et des éducateurs, donc des professionnels, qui sont formés pour former des chiens guides à leur métier de chien guide d'aveugle. Au bout de ce parcours, ils sont remis à des personnes déficientes visuelles, donc aveugles ou malvoyants.
Ce sont des races de chiens particulières. Tous les chiens ne peuvent pas devenir chiens guides, j'imagine.
Oui, effectivement, tous les chiens ne peuvent pas devenir chiens guides. Alors, c'est vrai que la plupart des chiens guides sont des labradors, des golden, des croisements de labrador et de golden. On a aussi quelques races spécifiques. On a des bergers allemands, on a des caniches. Mais c'est vrai que la très grande majorité des chiens sont des labradors et des golden parce qu'ils ont, et d'une, la bonne taille, et de deux, en termes de comportement, ce sont vraiment des chiens qui sont très à l'aise dans la technique de guidage et dans tous les ordres qu'on peut leur demander. Et vis-à-vis aussi de l'être humain, il y a vraiment un lien très fort qui se crée entre la maîtresse ou le maître de chien guide et ce chien.
Ce qui est important de préciser, Alexandra Blanchin, c'est que ces chiens sont confiés gratuitement à leur nouveau maître.
Exactement. En fait, chacune des associations fait appel à la générosité du public à travers des dons, à travers des legs. Et c'est vraiment ces sources de revenus qui permettent aux écoles de fonctionner et qui leur permettent de remettre gratuitement un chien guide d'aveugle. On a coutume de dire qu'un chien guide d'aveugle, ça coûte environ 25 000 euros entre le moment où il naît et pendant tout son parcours d'éducation, puis jusqu'à sa mise en retraite, puisque évidemment, les chiens sont chiens guides d'aveugle pendant quelques années. Et ensuite, il coule une retraite paisible, soit auprès de la personne déficiente visuelle qui peut conserver ce chien en plus d'un nouveau chien guide pour le guider, soit auprès de la famille de cette même personne ou auprès de familles d'accueil qui spécifiquement s'occupent des chiens à la retraite.
Et pour en savoir plus et se rendre compte de ce travail formidable qu'exercent les équipes des centres d'éducation à travers la France, vous recevez des familles, des donateurs, vous l'avez dit, rendez-vous samedi et dimanche avec la fête des chiens guides d'aveugles dans 14 centres d'éducation, donc vraiment partout sur le territoire. Merci beaucoup Alexandra Blanchin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Bonne journée.
Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une de l'actualité, un dernier coup de raquette pour la route. Roger Federer dispute son ultime match de tennis professionnel ce soir à Londres. Le Suisse va s'aligner en double aux côtés de son rival de toujours, Rafael Nadal. Un match pour l'histoire et des fans déjà conquis. Reportage dès le début de ce journal. La réforme des retraites. Le gouvernement pourrait renoncer à passer en force. Pas d'amendement, mais un projet de loi en bonne et due forme présenté au Parlement au début de l'année prochaine. Les vendredis thématiques d'Europe 1, comme chaque semaine, votre rendez-vous hebdomadaire. On va s'intéresser aujourd'hui aux réseaux sociaux. Faut-il les bannir ou au contraire apprendre à les utiliser avec modération? On pose la question ce matin et toute la journée sur Europe 1. Le journal de 5h30 avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Les fans ont déjà noté l'heure des adieux. Roger Federer jouera son dernier match de tennis ce soir à 21h30. Ce sera à l'occasion de la Laver Cup à Londres, tournoi exhibition dont il est le créateur. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem ne jouera pas en simple, mais en double, aux côtés de Rafael Nadal, son ami et rival de toujours. Moment exceptionnel attendu par des milliers de spectateurs et une fierté pour les Suisses qui se préparent aussi à suivre cet ultime rendez-vous à distance. Reportage à Genève de notre envoyée spéciale Caroline Baudry.
Roger Forever, titre en une, un hebdomadaire en vente dans un kiosque sur le parvis de la gare où flottent trois drapeaux suisses, c'est l'heure de pointe. Fin de journée pour Sylvain et Raphaël et fin du suspense pour ces deux fans de tennis.
Il va jouer avec Rafael Nadal, c'est pas vrai?
En double.
C'est super. C'est un beau clin d'œil. Hein. C'était, je pense, les plus grands rivaux de ces 20 dernières années. Donc, c'est une belle fin de l'histoire.
C'est une super grande amitié entre les deux. Deux personnalités exceptionnelles.
Agathe referme sa doudoune en sortant du hall de gare. Cette habitante de Genève confie suivre de loin le tennis, mais elle regrettera le sportif et l'homme.
C'est un génie, quoi. Au niveau sportif et tout, jamais dire « Oh, je gagne et puis je suis le meilleur ». Il a toujours su... se réjouir, mais dans une grande retenue.
Valentin, chauffeur de taxi, attend les clients. Ce soir, c'est dans son véhicule qu'il espère suivre le match.
Si c'est diffusé à la radio, oui. Roger Federer, c'est le premier citoyen suisse, le premier ambassadeur de Suisse dans le monde entier. C'est comme Coca-Cola. Tout le monde le connaît.
Genève, Caroline Baudry, Europe 1.
Roger Federer et Rafael Nadal affronteront la paire américaine composée de Jack Sock et Frances Tiafoe. Début de la rencontre programmée aux alentours de 21h30, heure française.
La retraite, tiens, on en parle aussi en France. Christophe, le gouvernement pourrait renoncer à passer en force face à la levée de bouclier des parlementaires.
Elisabeth Borne abordera la question ce midi à l'occasion d'un déjeuner avec Emmanuel Macron. La première ministre va tenter de dissuader le chef de l'État de passer en force via un amendement au projet de loi de finances sur la sécurité sociale avec un argument. La menace d'une censure du gouvernement est réelle. La NUPES et le Rassemblement National se disent prêts à la voter ensemble. Raison de plus pour temporiser, rappelle le président du Modem, François Bayrou.
Je suis certain depuis le premier jour que ça ne pourra pas se faire. Parce que je connais le président de la République, je sais qu'il écoute, je sais qu'il observe les sentiments du pays, je sais combien la préparation des réformes est nécessaire pour que les réformes aboutissent. Il a dit ça pendant toute sa campagne électorale. Et donc, je n'ai jamais cru qu'on pourrait imposer une démarche de passage en force ou à l'improviste. Jamais cru. Donc j'ai maintenu ma position et j'ai l'impression, en tout cas en écoutant ce que la Première ministre a dit, que c'était des arguments qui étaient pris en compte.
François Bayrou, le président du Modem, au micro d'Alexandre Laborde, cette réforme des retraites pourrait prendre l'allure d'un projet de loi à part entière avec un débat prévu à l'Assemblée en février prochain.
Les réseaux sociaux sont-ils dangereux? C'est le thème des vendredis thématiques d'Europe 1, rendez-vous hebdomadaire pour comprendre le monde qui nous entoure. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, ces plateformes de discussion et d'échange sont devenues incontournables, mais une trop forte consommation n'est pas sans conséquence sur la santé mentale, Christophe.
Oui, les adolescents sont particulièrement exposés et donc vulnérables. Étaler sa vie au vu et au su de pratiquement tout le monde est tout sauf neutre. Et parmi les conséquences néfastes, il y a aussi un autre danger, le temps passé devant un écran beaucoup trop élevé. Les scientifiques sonnent l'alerte. Selon eux, le risque pour la santé est réel. Yasmine Akatou.
4h50 par jour, c'est en moyenne le temps que les 15-17 ans passent devant les écrans, souvent sur les réseaux sociaux. Or, de 5 à 17 ans, il est recommandé de passer moins d'1h30 sur son ordinateur ou son portable. Voir défiler la vie des autres sur Facebook, Instagram ou TikTok a des conséquences sur la santé mentale des jeunes, alerte Serval Mouton. Elle est neurologue.
C'est des enfants qui, si leur réputation est détruite ou mise à mal sur un réseau social, vont être extrêmement déprimés, même parfois des idées suicidaires. Il y a également le côté l'image corporelle, en effet, parce que cette tendance à l'idéalisation, homogénéisation, peut aussi faire des dégâts à des âges où, comme je disais, ils sont sensibles, quoi.
Pour se connecter aux différents réseaux, nous sommes souvent assis ou allongés. Et à long terme, la sédentarité a des effets directs.
Ça va favoriser la survenue des infarctus du myocarde, des AVC. Et puis les écrans sont la grande cause aujourd'hui des troubles du sommeil. La lumière bleue qui donne un peu au cerveau l'information, il fait jour en fait. Donc décaler du coup l'heure d'endormissement.
Pour éviter les effets sur le sommeil, Serval Mouton recommande de troquer le téléphone contre un livre au moins une heure avant de se coucher.
Yasmina Katou.
En Russie, la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine rencontre une résistance de la part d'une partie de la population.
Et on va rester très prudent sur les chiffres, Alexandre. En la matière, la communication et les images sont aussi l'objet d'une guerre entre Moscou et Kiev. Une certitude, si les appelés russes répondent à l'appel du président, il y en a aussi qui cherchent à fuir le pays par avion vers la Turquie ou encore par la route vers la Finlande.
Plus gênant pour le Kremlin, le fils du porte-parole a lui-même cherché à échapper à la convocation.
Oui, il a été piégé par l'animateur d'une chaîne YouTube qui s'est fait passer pour un recruteur. Le reste se passe de commentaires. Écoutez.
Bonjour Nicolas.
Qui est-ce?
C'est le commissariat militaire. Est-ce que l'on peut discuter maintenant?
Oui.
Ne raccrochez pas comme la dernière fois. On vous a envoyé une convocation de mobilisation. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore répondu? Deuxièmement, est-ce que vous viendrez au commissariat demain? Nous vous attendons à 10h. Hein.
Vous... Évidemment, je ne viendrai pas demain au commissariat. Vous devez comprendre que je suis Monsieur Peskov et que ce n'est pas vraiment pour moi. De toute façon, je vais résoudre le problème. Je vais le résoudre à un autre niveau.
Voilà, Nicolas Peskov, le fils de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, piégé donc par un animateur de la chaîne YouTube et échange audio évidemment largement diffusé. Les Ukrainiens comptent bien amplifier ce refus de la guerre chez les Russes. Protester, lutter, fuyez ou rendez-vous, ce sont vos options pour survivre. Message vidéo du président Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé en russe pour l'occasion.
Football, les Bleus ont gagné et se sont un peu rassurés face à l'Autriche.
Victoire 2-0 qui permet aux Bleus effectivement de se relancer dans cette Ligue des Champions. De quoi éloigner pour quelques temps les nuages qui s'amoncellent au-dessus du football français. Une belle soirée, Cyril de la Morinerie, en dépit des blessures.
Oui, les Bleus ont retrouvé le sourire après 4 matchs sans victoire. Les champions du monde ont signé un succès important et rassurant à 2 mois du Mondial. Les Français se sont relancés dans la Ligue des Nations, mais surtout, ils ont totalement dominé les Autrichiens. Les champions du monde ont gagné, souligne le sélectionneur Didier Deschamps.
Il n'y a rien de mieux que la victoire, même si le score aurait pu être beaucoup plus lourd. On a eu la chance encore aujourd'hui d'avoir une belle ambiance au Stade de France. Voilà, c'est une très belle soirée.
Le public s'est enflammé sur le but de Kylian Mbappé et s'est levé pour Olivier Giroud. L'attaquant français s'est encore rapproché de Thierry Henry. Il n'a plus que 2 buts à inscrire pour égaler le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais surtout à 35 ans et 357 jours, Olivier Giroud est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France. Cette nouvelle performance XXL va-t-elle convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar pour la prochaine Coupe du Monde? Les supporters qui ont ovationné au Stade de France Olivier Giroud en rêvent.
La réponse dans quelques semaines lorsque Didier Deschamps, bien sûr, publiera la liste des 23. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Prochain match dimanche contre le Danemark à Copenhague. Enfin, la Coupe du Monde de basket. Les Françaises joueront leur deuxième match ce matin à 10h face au Canada après leur victoire hier contre l'Australie.
Merci Christophe Lamar. 5h39. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à tous avec les pronostics du Quintet. Bonjour, bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes à 20h15 que va se courir ce quintet. Et parmi les 14 partantes, réparties sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres, j'ai fait confiance en priorité à celle s'élançant au second poteau, qui me semble être d'un niveau bien supérieur aux 10 autres qui partiront en tête, avec les numéros 14, Grit Tigresse, idéalement placé et préparé avec soin en vue de cet objectif par son entraîneur Jean-Luc Bigeon, 11 Grâce du Dijon, volontairement ménagé cet été et qui, après deux prometteuses courses de rentrée, devrait pouvoir refaire parler d'elle dès ce soir, et 12 Gagnante Méloise, certainement la plus douée de ce quintet, avec laquelle ce sera une nouvelle fois une question de départ. Ensuite, je vous recommande Galia Soto, le numéro 5, irréprochable cet été en province et qui se déplace à Vincennes avec de légitimes ambitions, tout comme Galiléa Passion, le numéro 1, de loin la moins riche, mais certainement pas la moins douée. Enfin, les numéros 13, Fillette Del Green, 3, Gloire Fleurie et 9, Girl au Fort compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 11, 12, 5, As, 13, 3 et 9.
Des pronostics que vous retrouvez sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
C'est le jour où maintenant les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et ce matin, l'histoire de la technoparade. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambline.
Demain, samedi 24 septembre, c'est donc le grand retour de la technoparade. Après deux années blanches à cause de la crise sanitaire, la technoparade et son traditionnel défilé de chars et de teufeurs. La première édition a lieu en 1998. Elle a pour parrain l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. La technoparade, Lord, c'est la petite sœur de la Love Parade berlinoise.
Une manifestation à l'origine contre le mur de Berlin qui coupe la ville en deux et qui rassemble des centaines de milliers de personnes.
Ça vaut la peine de voir un million de personnes qui s'entendent, qui viennent faire la même chose. Ça laisse penser qu'on pourrait peut-être arriver à ce que le monde entier s'entende. Je sais pas, c'est l'utopie, mais ça fait du bien d'y croire pendant une journée par an.
Sur place, le journaliste d'Europe 1, Manuel Saint-Paul, raconte.
L'ancien ministre de la Culture veut changer la réputation de la techno en France.
Les rêves étaient présentés comme des lieux du diable, comme des lieux de perversion, alors que paradoxalement, il n'y a pas un public plus bon enfant que les participants aux rêves ou aux concerts techno. Ce n'est pas faux que parfois vous pouvez trouver ici ou là des drogues et parfois des drogues dangereuses. Mais ce n'est pas spécial à la techno.
Et l'année suivante, donc, Jack Lang crée la Technoparade en France.
Et c'est un succès puisque 200 000 personnes participent à cette première édition française.
Oui, une circulaire interministérielle sera même rédigée reconnaissant l'aspect culturel de la techno. Gad Vell, le producteur de la première technoparade, se réjouit que ce genre musical soit reconnu.
Je pense que le grand public commence à comprendre que les fans de techno, c'est un public très dynamique, c'est la jeunesse telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans la rue, et que finalement cette musique qu'ils croyaient underground, qu'ils croyaient très particulière, est une musique qu'ils commencent à apprécier.
Et sous les fenêtres des Parisiens, ce DJ dit Franck fait découvrir son univers.
On leur amène là directement la vision qu'on a nous et on essaie de la faire partager. Donc ouais, c'est bien que justement ça peut ramener encore des gens. C'est pour pas que ça s'essouffle, il faut qu'il y ait des nouveaux courants, des nouveaux acteurs et un nouveau public.
La technoparade rassemble en moyenne 300 000 personnes.
Merci beaucoup Lord d'Autriche et à lundi pour un nouveau jour ou sur Europe 1.
5h43 dans un instant, mobilisation contre la mucoviscidose. Ce sont les virades de l'espoir ce dimanche, une journée d'événements sportifs et festifs près de chez vous, une journée d'appel aux dons. Je reçois dans un instant Pierre Foucault de l'association Vaincre la mucoviscidose.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Un rendez-vous ce week-end, c'est un moment très important de la lutte contre la mucoviscidose, cette maladie génétique. Les virades de l'espoir vous invitent ce dimanche, ce 25 septembre, à faire un don tout en participant à des événements sportifs et de loisirs. Votre invité Alexandre, c'est Pierre Foucault, vice-président de l'association Vaincre la mucoviscidose.
Bonjour Pierre Foucault.
Bonjour.
Les virades de l'espoir, donc, partout en France, ce dimanche. C'est un appel à la générosité, à la solidarité des Français pour vaincre cette maladie, hein, la mucoviscidose. Vous allez tout nous dire sur cet événement national. Un rappel d'abord, cette maladie, c'est la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires. Hein.
On dit que c'est la plus fréquente des maladies génétiques rares. Ça reste une maladie rare. Il y a 7500 patients qui sont atteints par cette cruelle et sournoise maladie qui touche les poumons d'abord. La sévérité de l'atteinte est liée à la maladie pulmonaire, mais elle touche également les organes de la digestion. C'est une maladie, vous le savez, qui est sévère, et une façon de l'indiquer, c'est qu'il y a 7500, je vous l'ai dit, patients atteints et leur âge moyen est de 22 ans. Et parmi eux, il y en a près d'un millier qui vivent grâce à une greffe des deux poumons et même parfois greffe d'autres organes tels que le foie ou les reins.
C'est une maladie qui se manifeste comment ? Quels sont les symptômes ?
Les symptômes, c'est essentiellement des manifestations de bronchite à répétition, de diarrhée chronique et de difficultés de croissance, de prise de poids. Mais aujourd'hui, le contexte est différent puisque 2022, c'est le 20e anniversaire du dépistage néonatal de la maladie. Oui. Autrement dit, la mucoviscidose fait partie des maladies qui sont dépistées par la petite goutte de sang qui est prélevée au talon de tous les nouveau-nés en France. Donc ils sont repérés grâce à ce dépistage dont nous fêtons le 20e anniversaire, dès les premières semaines de vie.
Les nouveau-nés, tous les 3 jours, Pierre Foucault, un enfant naît atteint de mucoviscidose.
Oui, absolument. Et c'est une maladie dont on ne mesure pas bien l'évolution. Alors c'est vrai que le dépistage néonatal a permis d'adapter le traitement dès les premiers mois de vie, mais ce que les Français perdent un peu de vue, c'est qu'il y a 2 millions d'entre eux qui porte le défaut génétique, qui est susceptible de transmettre ce défaut génétique à leur descendance, et en toute ignorance, puisqu'ils sont en parfaite santé.
Oui, et donc cela signifie qu'ils peuvent transmettre sans le savoir ce gène à leurs enfants.
C'est ça, absolument. Ou plutôt, les défauts génétiques sont susceptibles d'être transmis à leur descendance, d'où l'importance de ce dépistage néonatal qui a transformé radicalement le paysage et le visage de la maladie, puisque pour que le traitement soit efficace, on a labellisé des centres de soins spécialisés. Il y en a 47 en France, donc il y a une garantie d'un traitement adapté dès le plus jeune âge. Mais vous l'avez compris, ce traitement, il est très très lourd à porter et de nouvelles avancées nous laissent espérer que l'avenir va s'ouvrir pour un certain nombre de patients.
Alors justement, Pierre Foucault, il faut bien comprendre l'importance et le pouvoir des dons contre cette maladie. La recherche, vous le dites, a fait des progrès considérables. L'espérance de vie, en particulier des malades de la mucoviscidose, a énormément progressé.
Alors, on est prudent pour l'instant parce que les nouveaux traitements, ceux qui portent l'espoir le plus solide, sont accessibles en France depuis juillet 2021. Donc ça fait 14 mois. Ça n'est pas pour tous les patients, mais ceux qui ont pu y accéder, soit à titre compassionnel, soit parce que le médicament était enfin commercialisé, ont vu leur qualité de vie radicalement transformée, avec beaucoup moins de temps à consacrer au traitement chaque jour, et surtout leurs symptômes disparaître pratiquement, en tout cas leurs symptômes respiratoires. Au point, c'est l'élément le plus spectaculaire depuis 2 ans, au point que les indications à la greffe pulmonaire pour mucoviscidose ont spectaculairement chuté. En 2019, il y avait 20 greffes pulmonaires par trimestre pour mucoviscidose. Aujourd'hui, le chiffre est tombé à 2. Donc on comprend bien les résultats spectaculaires de cette nouvelle catégorie de traitement. Alors ce n'est pas la thérapie génique, comme pour beaucoup de maladies rares, c'est un traitement de la protéine, du produit du gène en question.
Pierre Foucault, la recherche fait des progrès, c'est un travail toujours de longue haleine, d'où ces virades de l'espoir organisées dans toute la France. C'est donc une journée de collecte, c'est une journée également qui veut festive. Hein. Le très beau message d'ailleurs de ces virades de l'espoir qui ont lieu ce dimanche, c'est qu'on participe, on vient symboliquement donner son souffle.
C'est exactement ça, et d'ailleurs j'invite vos auditeurs à y participer. Ce dimanche 25 septembre, ça va être un beau moment de fête, un moment de convivialité, de partage. Il y aura des événements sportifs, ce que vous disiez, hein, donner son souffle pour ceux qui en manquent cruellement, mais il y aura aussi des événements drôles, des événements gourmands, artistiques, familiaux, des défis à relever sur les réseaux sociaux, plein d'autres choses. Donc il y a évidemment la dimension collecte, mais il y a le soutien aux patients qui se battent jour après jour pour préserver leur souffle, qui se battent pour la vie, hein, tout simplement. Et je peux vous dire que bon nombre d'entre eux se sentiront un peu moins seuls dimanche soir.
450 sites dans toute la France pour ces virades de l'espoir ce dimanche. Ça veut dire qu'on en a forcément un près de chez soi. Je veux participer à un événement, je veux faire un don. Pierre Foucault, comment je m'y prends?
Il suffit de consulter le site virade.org.
Virade au pluriel.
Virade au pluriel, exactement, virade.org, et vous saurez où vous rendre pour passer un bon dimanche, pour passer de très bons moments et pour faire œuvre utile, pour bien montrer que la solidarité de proximité est vivante dans notre pays.
Voilà, pour ce rendez-vous dimanche, ce dimanche 25 septembre dans toute la France, pour faire reculer la mucoviscidose, les virades de l'espoir, le site internet virade.org. Merci à vous Pierre Foucault, vice-président de l'association Vaincre de la mucoviscidose. Merci.
Merci à vous.
Europe Matin. Europe 1, il est 5h51, le rappel de l'actualité, Alban Le Prince.
Faut-il fermer les réseaux sociaux face aux dérives? Question aujourd'hui sur Europe 1, vendredi thématique, comme toutes les semaines. Pour qu'il soit en tout cas moins anxiogène, l'ingénieur et ex-employé de Facebook qui avait fait fuiter l'année dernière des documents embarrassants a annoncé hier le lancement d'une ONG avec pour objectif de rendre les réseaux sociaux plus sains. Protester, lutter, fuyer, le message hier de Volodymyr Zelensky aux réservistes russes dont la mobilisation partielle a été annoncée par Vladimir Poutine. Les premiers ont été convoqués hier pour partir au front aujourd'hui. C'est aussi le début du vote des référendums annoncés par Moscou en début de semaine, référendum sur l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie. Et puis le paquet de cigarettes va-t-il franchir le seuil des 11 euros? Selon les Échos ce matin, le gouvernement envisage d'augmenter la fiscalité sur le tabac, ce qui entraînerait une hausse de 70 centimes environ par paquet.
Europe Matin. 5h52, très bon vendredi matin sur Europe 1 avec la prescription culture.
On écoutera notamment le nouveau Cérone avec Stéphanie Loire.
Mais d'abord le conseil lecture de Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors Nicolas, le vendredi, c'est un grand classique ou un roman culte et vous avez choisi Dracula. Pourquoi ce choix ?
En fait, je vous ai parlé en début de semaine d'un roman gothique d'aujourd'hui et qui commence un peu comme Dracula. Résultat, j'ai eu Dracula en tête toute la semaine comme une chanson qui ne part pas. Et je me suis dit que le meilleur moyen, bah, c'était de le reprendre. Et je vous mets ça dans la tête, tiens.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Comte Dracula ?
Je suis Dracula.
Glaçant, Nicolas, c'était un extrait du film de Coppola, c'est ça ?
Oui, film d'ailleurs très fidèlement adapté du livre de Bram Stoker, le créateur de Dracula. Le livre date, lui, de 1897. Alors, vous connaissez l'histoire. Le jeune clerc de notaire Jonathan Harker est envoyé en Transylvanie pour rencontrer le comte, mais il s'aperçoit vite qu'il y a quelque chose d'étrange dans le château, comme lorsqu'il voit son hôte se déplacer comme un lézard sur les murs. C'est vrai que ça étonne. Jonathan va finalement réussir à regagner l'Angleterre, mais Dracula ne tardera pas à le rejoindre. Il va donc falloir s'en occuper et lui régler son compte au compte. Et pour en finir avec un vampire, il n'y a pas 36 solutions. Petit rappel juste au cas où. Il faut au choix lui planter un pieu dans le cœur pendant son sommeil ou le placer à la lumière du jour. Il n'aime pas du tout ça.
Bon, bah ça a pas l'air si compliqué finalement.
Oui, il faut juste un peu de courage, c'est tout. Mais méfiez-vous quand même. Et puis, les vampires sont des séducteurs. Ils sont d'ailleurs très souvent associés à une forme d'érotisme. Ça fait partie du mythe. Encore que dans le livre de Stoker, le vampire ne ressemblait pas vraiment à Brad Pitt ou Tom Cruise. C'était plutôt un monstre, un vrai. Et Jonathan Harker est aidé par un chasseur de vampires, Abraham Van Helsing.
Alors, on dit, Nicolas, qu'il a été inspiré d'un personnage réel, ce comte Dracula.
Absolument. L'écrivain s'est inspiré des légendes d'Europe de l'Est et des rituels anti-vampires, mais aussi d'un personnage bien réel et tout aussi cruel que son homologue de fiction, Vlad Tepes Dracul, un seigneur de guerre de Transylvanie au XVe siècle, surnommé Vlad l'Empaleur parce qu'il avait une petite manie, empaler les prisonniers de guerre sur le champ de bataille pour terrifier l'adversaire et qui buvait leur sang. Chacun ses vices. Au passage, Van Helsing aussi est inspiré d'un véritable spécialiste des vampires, mais un historien, pas un chasseur de monstres.
Dracula de Bram Stoker, à lire ou à relire en plein jour, hein, c'est préférable. Merci beaucoup Nicolas. On en vient à la musique avec Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Stéphanie, alors on commence ce matin avec le retour du parrain de la disco, j'ai nommé Céron.
Chimiste de la fusion des synthétiseurs électroniques et des orchestrations symphoniques dans les années 70, Céron, l'orfèvre français de la disco qui a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde, avait publié un nouvel album sobrement intitulé Céron by Céron. Un album qui célèbre 50 ans de carrière à travers 16 de ses titres historiques, parmi lesquels Super Nature, tube planétaire de Céron, initialement publié en 1977, au top du hit parade américain en 1978, moult fois samplé et ici remixé par Céron en version 2022. Et nous rappeler que ce soir c'est le week-end et qu'on va pouvoir se laisser aller sur le dance floor. Sur ce futur album de Céron, de l'inédit aussi un extrait déjà dévoilé, une collaboration avec le producteur et DJ allemand Purple Disco Machine qui a donné naissance au titre Summer Lovin', un morceau qui donne envie de sortir son pas de def du grenier et de partir pieds nus célébrer l'été même s'il est déjà loin.
Céron by Céron, ça sort le 14 octobre prochain et le single Summer Lovin' est déjà disponible partout et comptabilise déjà plus d'un million de streams sur les plateformes.
Une autre nouveauté Stéphanie, tiens, toujours du côté de la musique électronique.
Oui, je vous emmène en club aujourd'hui. Je vous présente le nouveau single du DJ producteur lillois en lice dans la catégorie révélation lors des dernières victoires de la musique. C'est Mid. Mid, c'est un peu l'anti-héros de l'électro, un mec très sympa, talentueux, qui mélange l'humour, la mélancolie dans une musique à gros potentiel festif. Son nouveau single, il est issu d'une collaboration avec le duo Picard Brothers. Les Picard Brothers, ils sont producteurs entre autres pour Diplo, Dua Lipa, Mark Ronson, Beyoncé, Madonna, de belles références. Le titre s'appelle I Made It, comme un message pour nous signifier que la musique électro, c'est avant tout du fait maison. C'est le nouveau single de Mid, disponible dès aujourd'hui. Il sera en concert à l'Olympia à Paris mardi prochain. Merci beaucoup Stéphanie Loire, 5h57. Et merci à vous d'être là. Bonjour, bon matin sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 23 septembre. Votre interview à 6h40, Alexandre.
Et je recevrai Jean-Christophe Ropon, président de la CAPEB, les artisans du bâtiment. Alors vous connaissez le vieil adage, hein, quand le bâtiment va, tout va. Les artisans ont devant eux un énorme chantier, celui de la rénovation énergétique. Mais les freins sont nombreux. Inflation ou manque de main-d'œuvre, on en parle à 6h40.
Le retour du pressing. Vous le savez, quels articles à lire dans les quotidiens ce matin, ce sera dans 10 minutes.
Et puis votre partition, Ombline.
On le reconnaît tout de suite avec son grand chapeau, ses gris-gris autour du cou et sa canne ornée d'une dent d'alligator. Oh, Le sorcier Dr. John, immense pianiste et figure incontournable de la Nouvelle-Orléans, un album posthume sort aujourd'hui. Rendez-vous dans 20 minutes.
Il est 6h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Comment aider nos enfants face aux dangers des réseaux sociaux? C'est notre vendredi thématique sur Europe 1. Dans un instant, vous entendrez le témoignage de Léo, harcelée en ligne. Elle s'est effondrée pendant son interrogatoire, la conductrice du bus de Millas, évacuée du tribunal par les pompiers lors de son procès à Marseille. Pour une fois, ils seront du même côté du filet. Federer, Nadal, ils jouent en double ce soir à Londres, une affiche de rêve pour le dernier match professionnel du géant suisse. Le journal de 6 heures présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est peut-être arrivé à votre enfant, votre neveu ou celui d'un ami, le cyberharcèlement. 20% des jeunes entre 8 et 18 ans en ont déjà été victimes. Des menaces, des insultes, du chantage en ligne décuplé par les réseaux sociaux. C'est le thème de votre vendredi thématique chaque semaine sur Europe 1.
Et ce matin, vous allez entendre le témoignage de Léo. Léo devait faire sa rentrée en 3e dans un collège des Yvelines.
Oui, sauf que cet adolescent de 15 ans n'a plus mis les pieds à l'école depuis 6 mois. Léo est victime de harcèlement scolaire au collège et sur les réseaux sociaux. Un traumatisme que lui et sa maman ont raconté à Johan Tritz.
Léo, en fait, il faut savoir qu'il fait de la danse. C'est parti de là. Sur un groupe WhatsApp qu'il avait avec sa classe, ils ont commencé à l'insulter.
Et c'est là où y a eu les menaces de mort et tous les messages méchants. En fait, moi, je ne voulais plus entendre parler de ces messages et je ne voulais plus les voir. Et j'avais honte aussi, du coup, j'avais tout supprimé.
C'est une copine à Léo, en fait, qui s'est dit que ça allait beaucoup trop loin et qui, elle, m'a envoyé en fait les captures d'écran. Et donc là, suite à ça, j'ai pris le téléphone à Léo et c'est là où j'ai eu tous les messages. On arrêtera quand tu seras mort. De toute façon, tu ne mérites pas de vivre, etc., etc.
En fait, je pensais aussi que c'était de ma faute, que j'étais pas normale et tout.
Il allait au collège quand même avec la peur au ventre. Il a quand même été sous antidépresseur. On a décidé du coup de le déscolariser, de faire l'instruction à la maison.
C'est compliqué pour moi d'aller au collège et de passer devant mon ancien collège et tout. Je peux même pas.
Avec son papa, on a mis une application qui bloque les applications style Instagram, Facebook. Voilà, là, Léo a créé du coup un compte Instagram qui est sur mon téléphone où j'ai son code, où je peux avoir accès à toutes les communications. Et c'était la condition sine qua non. Normal, hein, c'est de son âge aussi, hein, tous ses copains longs, c'est surveillé plus. Quoi.
Un témoignage de Léo et sa maman recueilli par Johan Tritz pour Europe 1.
Les parents, premier rempart donc face au danger des réseaux sociaux, mais et l'école dans tout ça?
Oui, parce que l'entrée au collège, c'est généralement l'année du premier téléphone portable et de l'entrée dans la vie numérique aussi. Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un programme Internet sans crainte, un cours adressé aux 6e, axé sur les bons comportements, des outils indispensables, hein, Louis Salé.
Oui, rappelez-vous de la rentrée des 6e. L'année dernière, ils avaient été accueillis dans une ambiance anxiogène par le hashtag anti-2010. Cette année, un autre slogan se veut plus positif. Bienvenue les 6e. C'est le titre aussi de ce cours enseigné dans les collèges volontaires. Des vidéos, des fiches pédagogiques sont mises à disposition des profs gratuitement.
Si tu supprimes une photo, elle restera tout de même enregistrée, même sur les réseaux éphémères.
Axel Dessin dirige le programme Internet sans crainte à l'origine de ce projet.
Donc les bonnes pratiques qu'on veut leur faire passer, c'est déjà d'être respectueux les uns avec les autres, de se rappeler que derrière un écran, il y a une vraie personne et que c'est important de bien se comporter avec elle pour éviter justement que s'installent des situations de cyberviolence. Ensuite, sur la protection des données personnelles, l'enjeu, c'est surtout le plus longtemps possible de choisir un pseudonyme, de choisir un avatar, de ne pas partager des informations qui vont permettre de découvrir l'identité ou savoir où on habite, par exemple.
Et ce cours se prolonge en famille, le soir, avec les parents.
Rappelez-lui que les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok et même YouTube, interdisent l'accès à leur service avant 13 ans.
La vigilance des adultes est importante à solliciter car c'est grâce à elle que des situations de cyberharcèlement se débloquent.
Louis, ça l'est 6h04 sur Europe 1, deux fois plus vite sur l'énergie renouvelable. Emmanuel Macron donne le rythme. Le président de la République veut accélérer le développement de parcs éoliens offshore. Le premier de France d'ailleurs au large de Saint-Nazaire a été inauguré hier par le chef de l'État après 10 ans de travaux.
Et des délais que Emmanuel Macron espère réduire grâce au projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres.
Oui, un texte qui mise aussi sur le développement de la filière nucléaire, l'art du « en même temps », Jacques Serret, une manière aussi de répondre à la crise énergétique, à condition que les souhaits du président se réalisent, hein, Jacques.
Oui, car nul ne peut l'ignorer, Emmanuel Macron le premier la donne a changé à l'Assemblée. Et qui plus est sur un dossier aussi sensible que l'énergie, aussi clivant que les éoliennes ou le nucléaire, le locataire de l'Élysée le sait, il n'a aucune certitude que ses paroles se transformeront en actes. L'alliance de gauche anti-nucléaire fera tout pour faire barrage aux mesures visant à faciliter l'implantation de nouvelles centrales, quand de l'autre côté de l'hémicycle, les députés des Républicains ou du Rassemblement National ne seront pas plus favorables aux éoliennes. Avec une majorité toute relative, la ligne de crête de l'exécutif s'apparente donc sur ces questions à un atome, exactement comme pour la réforme des retraites. Allongement de la durée de cotisation ou accélération des énergies renouvelables, c'est en fait le même combat pour le chef de l'État qui, depuis la rentrée, s'emploie à se démultiplier sur tous les sujets en affichant toujours le même visage volontariste. On donne le tempo, se félicite un de ses conseillers, et c'est bien là la stratégie présidentielle, occuper l'espace pour se placer au centre du jeu politique, manière comme une autre de donner l'illusion d'avoir toujours la main, malgré la situation de blocage.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Au procès du drame de Millas, l'audience ne reprendra pas aujourd'hui. Les débats ont été suspendus hier. La conductrice du car scolaire s'est effondrée pendant son interrogatoire.
Oui, Nadine, seule sur le banc des accusés, est jugée pour la collision de son bus avec un TER en 2017. Six adolescents tués, 17 blessés. Les questions de la cour portaient sur sa prise de médicaments jusqu'à cette crise de larmes, au point d'être évacuée par les pompiers de Marseille, où notre correspondant Stéphane Burgat suit le procès pour Europe 1.
Des débats éprouvants, une séance qui tourne court et une seconde semaine incertaine. Nadine Oliveira, partie en ambulance, est dans un état de fragilité psychologique préoccupant, selon son avocat, maître Jean Codoniès.
Après, je ne sais pas ce qu'en diront les médecins, moi je ne suis pas médecin. Elle a fait une tentative d'autolyse il y a 2 mois et demi. C'est un être fragile, qui est pris dans une tourmente épouvantable qu'on ne peut souhaiter à personne. La mort de 6 enfants, quand vous êtes... au volant de l'autocar, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas évacuer de votre esprit. Je veux dire, il faut le comprendre quand même.
Nadine Oliveira qui est restée cette semaine sur sa position. La barrière du passage à niveau était bel et bien ouverte, selon elle, malgré les témoignages d'automobilistes qui la contredisent, malgré les données de certaines expertises, ce qui fait dire à des parents de victimes présents au procès qu'ils n'attendent plus rien de sa part. Qu'elle soit présente ou non lundi ne change plus grand-chose. Un papa nous glisse même. Pour moi, c'est comme si ce procès était déjà terminé. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Marseille, où les transports en commun seront perturbés aujourd'hui.
Oui, la CGTFO appelle à une grève contre le manque d'effectifs. Un bus sur 3 aux heures de pointe. Le réseau de tramway sera aussi particulièrement touché. 6h07 sur Europe 1. Voilà de quoi redonner de l'espoir aux supporters français à 2 mois du mondial. Les Bleus ont retrouvé des couleurs hier soir en Ligue des Nations. 2-0 face à l'Autriche. La première victoire de l'équipe de France depuis le mois de mars. Deux buts signés Mbappé et Giroud. Une performance qui pourrait permettre aux Savoyards de jouer une dernière Coupe du Monde en novembre.
Et pour lui, le dernier match, ce sera ce soir à Londres. Roger Federer va faire ses adieux au tennis.
Oui, le Suisse jouera pour la Laver Cup. Dernier tournoi professionnel de son immense carrière avec une affiche de rêve. Le maestro de 41 ans jouera en double aux côtés de Rafael Nadal, rival et ami. Jean-François Pérez, c'est ce qui s'appelle finir en beauté.
Oui, c'est comme si Federer, conscient de ses problèmes physiques récurrents au genou, avait tout planifié. Notre consultant, Cédric Pioline, salue l'artiste suisse une dernière fois.
Tout athlète rêve de contrôler ou de pouvoir être décideur, je dirais, de sa sortie. Il a décidé de le faire là, à Londres. Donc je trouve que c'est bien, c'est mérité. Il aura les hommages qui lui sont dus. Il y aura beaucoup de réactions, bien au-delà du monde du tennis.
Ce soir à Londres, l'émotion étreindra les 20 000 chanceux qui ont réussi à trouver une place. Nadal, Federer, côte à côte, cela repose la question du meilleur joueur de tous les temps. Federer est-il celui-là ? Réponse du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton.
Sur le jeu, sur la technique, sur la pureté, c'est probablement le meilleur joueur et le plus complet. Il a donné envie de jouer au tennis à énormément de gens. Je ne sais pas quel style de jeu va pouvoir remplacer le génie qui était Roger Federer.
L'homme aux 20 victoires en tournoi du Grand Chelem promet de ne pas trop s'éloigner de ce tennis qu'il aura incarné durant près d'un quart de siècle. Je ne serai pas un fantôme, assure-t-il.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Nadal, Federer contre Sock et Tiafoe, match prévu à 21h20.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet.
Il est 6h09. Vous restez avec nous à suivre le pressing sur Europe 1.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
Un très bon
réveil à tous avec Europe 1, 6h12. Il est temps d'ouvrir la porte du pressing.
Quels articles ont retenu notre attention? Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Et on commence avec vous, Dimitri. Vous avez vu quoi?
Eh bien, c'est un article de West France ce matin qui m'a marqué. Un article qui va forcément vous parler, cher auditeur, à l'heure peut-être pour vous du réveil et du petit déjeuner qui arrive. Je vous lis le titre. Omblin Alexandre, compote ou encore jus de fruits, ces aliments qu'on croit sains mais qui ne le sont pas vraiment.
Ah.
Car oui, de nombreux articles présents au supermarché se présentent comme sains, passant par le 0% de matière grasse, produits allégés en sucre, produits minceurs ou même sans gluten. Eh bien, la réalité est pourtant bien différente et c'est ce qui est expliqué dans cet article. On commence par les fameux jus de fruits qui, avec les fibres du fruit absentes et le sucre ajouté, ils sont en fait finalement loin d'être très sains. Alors, je vous rassure, il ne faut pas non plus les bannir, mais plutôt choisir ceux indiquant la mention 100% jus pour limiter la casse. La compote est-elle aussi visée? Car trop souvent, eh bien, elles sont industrielles et la quantité de sucre y est aussi bien trop élevée. Comme l'explique une diététicienne dans cet article, au lieu de ces deux produits, il faut finalement plutôt opter pour des fruits.
Exactement,
tout
voilà.
Simplement, c'est ça.
Et, on la fait nous-mêmes, la compote.
Exactement, en fait, il faut justement choisir le
fait maison.
Le fait maison et avec des fibres et les vitamines.
Avec des fibres,
exactement.
Et les vitamines.
Les produits dits allégés ne sont pas non plus épargnés. Bien souvent, les produits dits 0% ou sans matière grasse sont surtout des produits marketing. La diététicienne Pauline Pied, de son nom, nous donne l'exemple des yaourts où les entreprises vendent des yaourts nature à 0% de matière grasse, alors qu'en réalité, dans les yaourts classiques, eh bien, il n'y a qu'un pour cent souvent.
Ce
n'est
pas
une très grosse réduction. Donc, ces produits pourraient même avoir l'effet inverse et vous faire consommer beaucoup trop de ces articles et dérégler donc votre alimentation. Donc pour faire le bilan, s'il y a bien un conseil à retenir dans cet article, c'est qu'il est toujours préférable de consommer des aliments les moins transformés possibles. Donc on parlait notamment des fruits et donc des yaourts classiques. Et je ne veux faire culpabiliser personne, pas de panique.
Surtout pas à l'heure du petit déjeuner.
Exactement. L'alimentation parfaite n'existe pas. Car oui, l'alimentation saine, c'est surtout manger de tout et ne pas avoir de restrictions.
Bon, on dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, en tout cas pour bien la démarrer. Bon appétit si vous êtes à l'heure du café croissant. Alors on va dire pas plus d'un verre de jus de fruit si possible.
Exactement. Hein. Un petit fruit sur la table.
Un fruit, c'est encore mieux.
C'est encore mieux.
Omblin, votre fruit du matin.
C'est le Parisien aujourd'hui en France. Figurez-vous que vous allez pouvoir vous délecter de cet article en buvant votre jus d'orange fait maison que vous avez pressé vous-même. Je vous emmène à Bernay dans l'Eure. Au 7 rue Saint-Michel précisément, c'est là, il y a un siècle, qu'Edith Piaf a vécu. Cette bâtisse de 200 mètres carrés avec sa façade crème était jadis la pension Gassion, appelée aussi le Grand 7. Oui, c'est bel et bien la maison close tenue par la grand-mère de la môme. La petite Edith lui avait été confiée en 1917 par son père lorsqu'elle n'avait que 2 ans. Vous connaissez cette histoire, vous avez peut-être vu le film aussi, biopic, la môme. Elle y restera jusqu'en 1922 et toute sa vie, Edith Piaf racontera qu'elle a passé dans cette maison du plaisir les années les plus heureuses de sa vie, choyée par les résidentes. À l'époque, l'endroit était composé d'une grande salle de café avec un piano au rez-de-chaussée et les chambres à l'étage se trouvaient de chaque côté du couloir. Alors pourquoi parlons-t-on de cette maison d'enfance de la chanteuse? Eh bien parce que la pension Gassion est à vendre, messieurs.
Ah, on peut l'acheter, d'accord.
À Bernay, dans l'Eure. Aujourd'hui, elle est divisée en 3 appartements et elle est occupée par des locataires, notamment par Marie-Claude, qui ne veut pas partir et on espère vraiment qu'elle n'aura pas à le faire. L'immeuble est effectivement à vendre comme investissement locatif. Prix de vente, 285 000 euros. 200 mètres carrés, 285 000 euros, oui.
Donc pour 3 appartements.
Pour 3 appartements, oui, bon. Parce que là, en plus, la valeur patrimoniale du lieu n'a pas fait exploser le tarif. Disons que c'est les prix pratiqués dans la région.
Plutôt une bonne affaire.
Exactement, avec en plus une petite plaque qui précise qu'Edith Piaf a vécu ici.
A vécu ici.
Rien de rien.
La maison d'Edith Piaf est à vendre, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Et à propos de la môme, tiens, sachez que ce week-end, une série de lettres issues de sa correspondance avec son ami l'acteur Robert d'Alban sera mise en vente au Salon du Livre Rare et des Arts Graphiques à Paris. Elle y confiait notamment dans ses lettres ses peines de cœur.
Que de vente.
C'est vrai. Il y a des affaires à faire.
Il y a des affaires à faire.
On termine ce tour de table avec vous, Alexandre.
Petite question pour vous. Quand vous regardez un film ou une série, est-ce que vous mettez les sous-titres?
En version originale.
En VO. Oui.
Alors, je précise ma question. Quand vous regardez un film ou une série française, est-ce que vous mettez les sous-titres français ?
Non. Jamais.
Non, vraie question, parce que c'est une vraie tendance, en tout cas chez les jeunes Américains. C'est le journal L'Opinion qui nous apprend ça ce matin dans un article traduit du Wall Street Journal. Qu'on parle de Netflix ou de TikTok, en fait, les jeunes, ils ne peuvent plus se passer de sous-titres sur les vidéos. Alors, on parle pas effectivement de l'usage logique des sous-titres, traduire une langue que vous ne comprendriez pas, oui. Mais on parle bien des sous-titres qui viennent doubler des dialogues qui sont dans votre langue maternelle. C'est-à-dire que regarder pour les Américains une série américaine avec des sous-titres en anglais. Pour nous, ça serait
quelle
regarder un film ou une série française avec des sous-titres en français.
D'accord.
Cet usage-là, on le sait très bien, il est pensé d'habitude pour les malentendants. Mais dans une enquête américaine, près des trois quarts de la génération Z, 18-25 ans, et plus de la moitié des millennials, moins de 41 ans, nous le disent, oui, la plupart du temps, ils regardent des contenus dans leur langue avec des sous-titres. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert ? Alors c'est pas pour devenir champion en dictée, je vous le dis tout de suite.
C'est pas pour
améliorer son orthographe.
Non,
certains, dans leurs réponses, disent qu'ils vont s'en servir pour apprendre une langue. Alors typiquement en France, là oui, dans ce cas-là, on va regarder une série américaine avec des sous-titres anglais. Ça, c'est un cas particulier. C'est souvent pour remédier à un problème de son, disent les répondants. C'est vrai qu'il n'est pas rare d'avoir des dialogues, vous savez, qui sont susurrés ou qui sont mal articulés. Beaucoup se plaignent aussi que la musique de fond, ça c'est vrai aussi, vient t'empêcher de bien entendre les dialogues des acteurs. D'autres encore vivent dans des appartements bruyants, c'est pratique aussi si on a besoin de baisser le son la nuit que d'avoir les sous-titres. Mais souvent aussi, c'est pour faire plusieurs choses à la fois.
D'accord.
On regarde Netflix d'un œil, on surfe sur YouTube de l'autre, comme ça si on loupe le début d'une réplique à l'écran, on la rattrape d'un coup d'œil.
Très génération Z.
Avec le sous-titre. Voilà.
C'est ça, en fait.
Si finalement tout cela nous dit cet article, le stade abouti d'une tendance de fond qu'on a vue et qui est mise en place depuis plusieurs années déjà par les Apple, les Google, les Meta, donc Facebook, c'est qu'ils ont généralisé les options sous-titres, les générateurs de sous-titres sur les réseaux sociaux. On favorise ainsi ce zapping permanent. Tiens, voilà qui résonne subitement avec notre vendredi thématique ce matin sur Europe 1. Faut-il fermer les réseaux sociaux ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, ça me donne envie tout simplement d'éteindre mon smartphone et d'aller au cinéma.
Voir un film en français non sous-titré ou anglais sous-titré.
Exactement.
Merci beaucoup, Alexandre. C'était le pressing. Vous restez dans un instant la partition.
Europe Matin.
6h21 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Les passionnés de tennis seront tous devant leurs écrans ce soir. Probable le dernier match de la carrière de Roger Federer avant sa retraite à la Laver Cup. Pour cette dernière, il a choisi de disputer les doubles avec son adversaire, mais aussi ami toujours, Rafael Nadal. Ils seront opposés à Jack Sock et Frances Tiafoe. Le chef d'État qui a voulu entrer en guerre, qui a voulu une escalade, c'est Vladimir Poutine. Déclaration d'Emmanuel Macron hier soir dans une interview accordée à CNN. Alors qu'en Russie, les premiers réservistes ont reçu leur ordre de mobilisation. Et puis on apprend ce matin que cet été, près de 50 incendiaires présumés ont été interpellés dans la lutte contre les feux de forêt, des comptes communiqués il y a quelques minutes par la gendarmerie.
Votre partition Omblin à 6h22, c'est une immersion ce matin dans les bayous du Mississippi avec comme guide un sorcier vaudou, immense figure de la Nouvelle-Orléans. Pendant plus de 6 décennies, le musicien Dr. John, il a concocté une potion faite de jazz, de funk et de rock psychédélique.
Oui, une recette détonnante imprégnée de savoir créole. Dr. John Alexandre, c'était le personnage farfelu et légendaire créé par le pianiste Malcolm John Rebenack Jr. Grab somebody, come on down. Bring your paintbrush, we painting the town. Oh, there's some sweetness going round. Catch it down in New Orleans.
Dr. John, il avait pour lui une créativité débordante. On le voyait d'ailleurs souvent arriver sur scène dans des tenues complètement délirantes.
Oui, la tête surmontée d'une coiffe indienne qui déborde de plumes, toutes sortes d'amulettes, de gris-gris pendus autour du cou, un crâne trônant parfois fièrement sur son piano. Chaque concert était digne des parades de carnaval de la Nouvelle-Orléans. Et puis Dr. John, c'était surtout cette voix, vous l'entendez, cette voix nasale, rocailleuse, caverneuse.
Alors, il était originaire de Louisiane, il y est né dans les années 40 et c'est sur ces terres qu'il a disparu le 6 juin 2019.
Aujourd'hui, on découvre son album posthume, celui sur lequel il travaillait. Un album composé de chansons originales et de reprises. On l'entend ici, accompagné de Willie Nelson.
Is good enough for me.
C'est donc dans les rues de New Orleans, la Nouvelle-Orléans, que Mac Rebennack, alias futur Dr. John, donc, passe son adolescence entre les clubs et les studios d'enregistrement.
Il se nourrit de musique mais aussi d'héroïne, ce qui lui vaut quelques séjours en prison. Particulièrement doué à la guitare, il est contraint d'abandonner son instrument de prédilection après une sale affaire pendant laquelle il se retrouve la main gauche posée devant le canon d'un pistolet, l'annulaire sérieusement esquinté. Il se rabat sur le piano. Après des années officiant en tant que musicien de studio à Los Angeles, travaillant notamment pour le sulfureux producteur Phil Spector, Mac Rebennack sort son premier album à la fin des années 60. Un disque signé Dr. John, le surnom d'un guérisseur de la Nouvelle-Orléans au 19e siècle, surnom qu'il adopte définitivement.
Alors on dit d'ailleurs qu'il doit ses débuts à Sonny & Cher.
Oui, le couple lui fait don d'une partie du temps des séances d'enregistrement qu'il a réservées. Dr. John saute sur l'occasion, rassemble les troupes pour mettre sur bande des compositions. La culture musicale de la Nouvelle-Orléans doit beaucoup à Dr. John. C'est lui qui ouvre la cité du jazz au rock psychédélique des années 60 et au funk des années 70. Tout au long de sa carrière, il va partager son temps entre l'élaboration de ses propres disques, la mise sur pied de concerts, spectacles et son travail de producteur pour d'autres comme Van Morrison, Willie DeVille ou l'ex-Beatles Ringo Starr. Dr. John n'a jamais posé de limite dans le mélange des genres. Son disque posthume qui sort aujourd'hui est aussi imprégné de musique country. Sometimes life we chew just like a bottomless pit. Sometimes we play with dynamite. Peace already. Sometimes we so like an eagle, try to fight like a boy. Sometimes we scream for help, still can't be heard. What's seen is seen, what's heard is heard. Done is done in this big old world. One thing I know, life is shown, sleeping dogs best left alone. Dr. John avec Sleeping Dogs Best Left Alone, c'est l'une des chansons originales qu'on retrouve sur son album posthume Things Happen That Way, enfin disponible plus de 3 ans après son décès.
Voilà du bon son à se mettre dans les oreilles dès 6h26 sur Europe 1. Merci Omblin. À suivre l'interview Écho à 6h40. On va parler rénovation énergétique avec Jean-Christophe Ropon, le président de la CAPEB. Il représente les artisans du bâtiment et il nous le dira. Les artisans veulent prendre toute leur part contre les passoires thermiques. Or, le secteur du BTP, lui aussi, subit l'inflation. Prix de la rénovation, de la construction a-t-il flambé? Comment aider les ménages? Réponse 6h40.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondant d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
L'isolement de Poutine pendant la crise du Covid est l'une des causes de la guerre en Ukraine. Déclaration d'Emmanuel Macron hier soir dans une interview sur CNN. Moscou qui tente de mobiliser ses réservistes alors que les référendums d'annexion débutent aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine. Faut-il fermer les réseaux sociaux? C'est la question choc que nous avons choisi de poser ce matin. Comme chaque semaine, les vendredis thématiques d'Europe 1. Dans ce journal, les réseaux sociaux ont-ils un impact sur notre santé? À venir. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? La Chine vient de cloner un loup arctique, une espèce menacée de disparition. Nous irons à Pékin à la fin de ce journal. Le journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Combien tentent de fuir et combien iront au front alors que les référendums d'annexion commencent aujourd'hui dans plusieurs régions de l'est de l'Ukraine? Le Kremlin assure qu'en 24 heures, 10 000 réservistes se sont déjà portés volontaires pour aller faire la guerre. Selon plusieurs médias, de nombreux hommes ont été enrôlés de force sans convocation. Situation que des milliers d'autres cherchent à fuir, quitter la Russie à tout prix, en voiture vers la Finlande, en avion vers la Turquie, pourvu qu'ils dépassent à mourir pour Poutine.
Une guerre de nouveau condamnée hier par les ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils exigent que Moscou rende des comptes sur son invasion de l'Ukraine.
Invasion sur laquelle la chaîne américaine CNN a interrogé Emmanuel Macron lors de sa visite à New York. L'entretien a été diffusé hier soir. Le chef de l'État qui a une analyse personnelle de l'entrée en guerre décidée par Vladimir Poutine. Écoutez.
C'est difficile pour moi de donner une explication. Quand il a décidé de lancer sa guerre, je pense qu'il a commis une énorme erreur. Aujourd'hui, je pense qu'après la contre-offensive, Vladimir Poutine est beaucoup plus sous pression. À présent, il est clair pour tout le monde que le dirigeant qui a décidé d'entrer en guerre, qui a décidé de l'escalade, c'est le président Poutine. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Je pense que c'est un ensemble de ressentiments, une stratégie d'hégémonie dans la région. Et je dirais que c'est une conséquence de son isolement pendant la pandémie. À ce moment-là, il a décidé de rompre complètement le dialogue que nous avions depuis 2014 et de partir en guerre. Je crois que toutes les discussions que nous avons eues ont été utiles.
Emmanuel Macron, interrogé par nos confrères américains de CNN, lors de son passage à New York, Emmanuel Macron a également conseillé aux entreprises et collectivités de ne pas renégocier leurs contrats d'électricité. Dans l'immédiat, nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité, précise-t-il, pour retrouver des tarifs plus raisonnables dans les prochaines semaines.
L'autre levier pour le président, ce sont les énergies renouvelables. Hier, il y a appuyé sur le champignon, Fanny.
Eh oui, aller deux fois plus vite, produire plus d'électricité, 40% de plus d'ici 2050, lors de l'inauguration du premier parc éolien offshore du pays à Saint-Nazaire. Le chef de l'État a rappelé l'urgence de mener à bien des projets nucléaires, mais aussi éoliens et solaires. Justement, Baptiste Morin, où en sommes-nous du photovoltaïque en France ? On a battu un record cet été, c'est ça ?
C'était le 7 août dernier, à 14h, la France battait son record de production d'électricité solaire. À ce moment-là, le parc photovoltaïque français produisait autant que 10 centrales nucléaires réunies. Un record en trompe-l'œil, car la production d'énergie solaire part de loin, de très loin même. En France, moins de 3% de l'électricité est produite grâce au soleil. La puissance installée est de 14 gigawatts. Il faudrait la multiplier par 7 pour atteindre l'objectif fixé par Emmanuel Macron d'ici 2050. Mais comme l'explique Nicolas Leclerc du cabinet de conseil Omnegy spécialisé dans le secteur de l'énergie, il faut de la place.
Pour couvrir la puissance d'une centrale nucléaire, il faudrait environ 1000 hectares. Étant donné que le solaire ne produit un quart du temps à pleine puissance, il faudrait l'équivalent de 4000 hectares.
Alors le projet de loi cible justement le foncier disponible, les parkings de la SNCF ou ceux des enseignes de supermarchés, avec l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques, les espaces délaissés autour des autoroutes avec l'installation de panneaux solaires au sol ou à nouveau en ombrière sur les aires de repos. Et puis il y a le projet à plus long terme de l'agrivoltaïque, l'installation de panneaux solaires au-dessus des parcelles agricoles pour concilier production d'énergie et production alimentaire.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
6h34, comme chaque semaine, vendredi thématique sur Europe 1 pour mieux comprendre notre société. Toute la journée, Fanny, on a choisi aujourd'hui de décrypter notre rapport aux réseaux sociaux.
Un lieu d'échange qui peuvent devenir des espaces de harcèlement ou de véritables drogues. Vous non plus, Alexandre, vous ne voyez pas passer le temps quand vous scrollez sur Instagram ?
Bah écoutez, je vais vous décevoir. Ou pas, je ne vais pas sur Instagram.
Eh ben, c'est pas plus mal, voilà. Finalement. Parce que figurez-vous que l'an dernier, plusieurs États américains ont ouvert une enquête contre Meta, qui est le groupe propriétaire de Facebook et Instagram. Il l'a accuse d'avoir autorisé des enfants et adolescents à utiliser ces réseaux, tout en sachant que ça pouvait avoir des conséquences sur leur santé mentale, car nos enfants sont fragiles et les risques pour leur bien-être sont nombreux et bien réels. Yasmina Katou.
4h50 par jour, c'est en moyenne le temps que les 15-17 ans passent devant les écrans, souvent sur les réseaux sociaux. Or, de 5 à 17 ans, il est recommandé de passer moins d'1h30 sur son ordinateur ou son portable. Voir défiler la vie des autres sur Facebook, Instagram ou TikTok a des conséquences sur la santé mentale des jeunes, alerte Serval Mouton, elle est neurologue.
C'est des enfants qui, si leur réputation est détruite ou mise à mal sur un réseau social, vont être extrêmement déprimés, même parfois des idées suicidaires. Il y a également le côté l'image corporelle, en effet, parce que cette tendance à l'idéalisation, homogénéisation, peut aussi faire des dégâts à des âges où, comme je disais, ils sont sensibles, quoi.
Pour se connecter aux différents réseaux, nous sommes souvent assis ou allongés. Et à long terme, la sédentarité a des effets directs.
Ça va favoriser la survenue des infarctus du myocarde, des AVC. Et puis les écrans sont la grande cause aujourd'hui des troubles du sommeil. La lumière bleue qui donne un peu au cerveau l'information, il fait jour en fait. Donc décaler du coup l'heure d'endormissement.
Pour éviter les effets sur le sommeil, Serval Mouton recommande de troquer le téléphone contre un livre au moins une heure avant de se coucher.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1, notait qu'hier, une ancienne salariée de Facebook, lanceuse d'alerte qui avait diffusé des documents compromettants contre l'entreprise, a lancé son ONG pour assainir les réseaux sociaux.
Il y a encore quelques années, ça tenait de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. Des chercheurs chinois sont parvenus à cloner des animaux.
Ah oui, c'est une première mondiale. Ils ont dupliqué un loup sauvage. Objectif, sauvegarder l'espèce en voie de disparition. Il a fallu au moins 3 ans de clonage sur des animaux domestiques pour en arriver là. La correspondance du correspondant d'Europe 1 en Chine, Sébastien Le Belzic.
À partir d'un simple échantillon de peau, les scientifiques chinois ont réussi à créer une copie conforme en laboratoire de ce loup sauvage d'Arctique. La croissance de ce bébé loup, qui vient de fêter ses 100 jours, est une première mondiale. Maya, c'est son nom, va être suivie pendant plusieurs mois avant de pouvoir retourner dans la nature à une réserve du nord de la Chine. Re Jiangming est vice-président du comité national chinois d'experts sur le clonage des animaux.
Les cellules du loup ont été introduites dans les ovocytes d'un chien de race Beagle et reproduites grâce à la technologie du clonage. C'est une très bonne technologie. Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées.
Mais en Chine, le clonage est aussi une affaire de gros sous. Le laboratoire Sinogène, qui a réalisé cette première mondiale, pratique depuis 2019 le clonage des animaux domestiques. Pour cela, un simple échantillon de peau ou de poils est nécessaire et aussi un très gros chèque. Il faut compter 35 000 euros pour un chat, 50 000 pour un chien et 80 000 euros pour un cheval afin d'obtenir le clone de son animal favori. À Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
35 000 euros pour cloner votre chat, Ombline, ça vaut le coup ?
Non. Je vais garder l'original.
Autant qu'on peut, et après on passera à quelqu'un d'autre.
Ouais, exactement.
C'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny. 6h38 sur Europe 1. Quand le bâtiment va, tout va. Vous connaissez la formule. Dans un instant, je reçois Jean-Christophe Repon. Il porte la voix des artisans du bâtiment. Comment se débarrasser des passoires thermiques ? Comment aider les ménages modestes ? Beaucoup de questions, réponses dans un instant.
Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
C'était un rendez-vous très attendu par la profession. Les assises du bâtiment et des travaux publics se sont tenues hier à Bercy. Le rendez-vous était organisé par Bruno Le Maire. L'occasion pour le secteur du BTP de tout mettre sur la table. Pénurie, inflation, crise énergétique ou encore manque de main-d'œuvre. Votre invité, Alexandre, c'est Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises. Du bâtiment.
Bonjour Jean-Christophe Repon.
Bonjour.
Avec la CAPEB, vous représentez les artisans du bâtiment. C'est considérable, hein, près de 400 000 entreprises, PME, TPE, qui veulent prendre toute leur part, bien sûr, dans la rénovation énergétique. Énorme chantier. Vous dites que vous n'avez pas aujourd'hui tous les moyens d'agir. Qu'avez-vous demandé hier à Bruno Le Maire ?
Nous avions fait plus de 26 propositions à Bruno Le Maire pour répondre au challenge de la France et donc de la partie citoyenne, vertueuse et économique. Les assises du bâtiment étaient là hier pour donner un coup d'envoi et nous avons été rassurés déjà sur le principe même que nous allons nous revoir au moins sur 2 dates prévues fin d'année 2022 et puis au printemps 2023 pour essayer de trouver des solutions. Et les annonces d'hier étaient déjà une belle écoute de l'économie et surtout de la TPE. Mais nous n'avons pas répondu, bien évidemment, à toutes les questions hier après-midi.
Bon, quel est le frein principal aujourd'hui au chantier de rénovation énergétique du point de vue des artisans du bâtiment que vous représentez ? Est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce que c'est la facture énergétique que vous subissez, bien sûr, vous aussi ?
Ce sont un peu tous ces principes-là. Ça fait plus de 2 ans que nous subissons une hausse des matériaux assez forte. Alors, nous avons demandé encore hier à Bruno Le Maire de regarder sur la transparence des prix. Nous voudrions comprendre ce qu'il y a dans l'augmentation des prix depuis plus de 2 ans. Est-ce que c'est vraiment, justement, ce que vous dites, la hausse de l'énergie ? Est-ce que c'est la crise ukrainienne ? Est-ce que c'est la sortie de crise de Covid ? Et nous n'arrivons pas à comprendre exactement ce que se situe dans la totalité des prix. Donc, on demande une transparence et la capacité de pouvoir prévoir au moins 1 mois ou 2 mois à l'avance les prix pour pouvoir travailler au mieux, puisque nous avons, du coup, nos devis qui augmentent et ce qui ne permettra pas aux Français d'accéder au chantier, accéder à nos devis.
Ouais, le prix de construction d'une maison, d'un appartement, enfin d'un logement a beaucoup augmenté, Jean-Christophe Repon, par rapport à l'année dernière.
Nous avons des estimations qui vont de 10 à 30% d'augmentation sur notamment la rénovation. Peut-être pas sur le neuf encore, mais également sur le neuf.
Ça augmente donc jusqu'à près d'un tiers d'augmentation en l'espace d'un an.
Vous voyez, 1 an et demi, 2 ans, depuis nous avons écrit la première fois à Bruno Le Maire en février 2020. Donc vous voyez que c'est une question qui perdure. On nous avait répondu à l'époque que c'était un problème de conjoncture et la conjoncture de 2 ans reste un problématique plus que conjoncturelle. Et donc on a des difficultés. De même, on se pose la question, parce qu'actuellement l'activité est encore très favorable. On est à plus de 3% d'activité au deuxième trimestre 2022. Mais bien évidemment que la facture augmentant, nous pensons que beaucoup de ménages vont être écartés de la capacité d'engager des devis.
Alors justement, vous demandez de booster les travaux de rénovation énergétique à travers une politique de primes plus ambitieuse. En particulier, je lis parmi vos propositions, vous demandez la mise en place d'une aide de 300 euros pour les ménages modestes, Jean-Christophe Repon.
Nous avons eu deux éléments essentiels. Nous avons un élément pour aider à 300 euros les ménages modestes. Et puis nous avons aussi la volonté de dynamiser encore MaPrimeRénov, qui a été une belle réussite. Oui. Mais du coup, d'indexer le prix les primes de MaPrimeRénov à l'inflation, qui permettait d'avoir de moins de reste à charge aux particuliers. Donc, sur ce point-là, le gouvernement n'a pas encore tranché. Ils sont à la veille de revoir la loi de finances. Donc, du coup, on a travaillé sur des principes qui ne passent pas devant la loi de finances et sur des équilibres budgétaires. Donc, les dates de revoyure, ce sera fin d'année et début de l'année prochaine pour avoir des projets plus structurants et plus ambitieux.
Ouais, en France, on estime qu'il y a plus de 7 millions de logements qui sont des passoires thermiques. Je cite là le dernier chiffre en date de l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Pour les artisans du bâtiment, c'est évidemment un marché très important pour votre carnet de commandes également, Jean-Christophe Repon.
Ce sont quelques années, des dizaines d'années d'activités qui sont prévues dans le challenge qui est devant nous. C'est aussi de l'emploi qui est prévu. La DARES a sorti une étude à 190 000 emplois dans les 20-30 années à venir. Mais il y a un principe de réalité. Le constat est celui-ci. Et maintenant, nous essayons de voir comment les particuliers auront les moyens de faire ces chantiers. Les entreprises sont présentes. Elles sont compétentes. Elles vont encore monter en compétences. On va monter en compétences sur la formation, notamment sur la transition énergétique. Mais le delta et l'ambition est un peu trop éloigné de la réalité économique.
Oui. Jean-Christophe Repon, vous parliez d'emploi il y a un instant. Un autre problème auquel vous êtes confronté, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre. Quels sont les profils, quels sont les métiers qui vous manquent le plus au quotidien sur les chantiers?
Il n'y a pas un métier actuellement qui est plus en tension qu'un autre. Tous les métiers du bâtiment recrutent actuellement. Nous avons recruté 15 000 emplois l'année dernière dans l'entreprise artisanale du bâtiment. Nous avons l'ambition d'arriver au moins à 12 000 à 15 000 emplois en 2022. Maintenant, il faut qu'on ait la capacité de pouvoir structurer et viser les bons profils. Mais nous pouvons récupérer beaucoup de filières qui sont en difficulté pour revenir dans le bâtiment. Donc on a une montée en compétences et des belles ambitions sur ce sujet-là.
Merci Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Merci à vous.
C'était l'Interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Europe 1, il est 6h47.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation à présent avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre, bonjour, et bonjour à tous.
L'innovation du jour, c'est une solution un petit peu folle pour contrer le réchauffement climatique. Des scientifiques proposent carrément de recongeler les pôles.
Oui, c'est le résultat d'une étude très sérieuse de l'université de Yale aux États-Unis. Elle explique la méthode dans les moindres détails. En plus, elle est parfaitement chiffrée. Et grosso modo, ça consiste à obscurcir le ciel au-dessus des pôles. Donc on enverrait des avions saupoudrés, des cristaux microscopiques à très haute altitude, des cristaux qui vont ensuite renvoyer une partie des rayons du soleil vers l'espace, ce qui va faire baisser la température. Alors ils ont fait leurs calculs, avec 125 avions et quelques rotations au printemps, on pourrait refroidir toute la région de 2 degrés par an, ce qui est énorme. Ça ramènerait les pôles à leur température d'avant l'ère industrielle, ça stabiliserait le climat et ça limiterait la montée du niveau de la mer.
Ça a l'air extrêmement magique ce que vous dites. Il pourrait y avoir quand même des conséquences inattendues, j'imagine.
Ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a pas mal de risques. Dans la région, le ciel sera voilé en permanence. Ouais. Les particules finiront un jour par tomber au sol. Et on n'a aucune idée de l'impact que ça aura sur l'écosystème. Mais comme il s'agit d'une des régions les moins peuplées du peuple, on se dit que l'équation risque-bénéfice est plutôt favorable. Vous savez, vous vous souvenez des accords de Paris? Le premier accord universel sur le climat. Oui. Eh bien, tous les experts estiment aujourd'hui que ça ne suffira pas, qu'il faut trouver des solutions solutions plus radicales. Et c'est pourquoi on voit se multiplier tous ces projets complètement fous. Par exemple, il y a des ingénieurs français qui proposent d'installer une ombrelle géante en orbite, une sorte de satellite parasol qui projetterait une ombre sur tel ou tel point chaud de la planète. Et ça permettrait d'éviter les sécheresses et les canicules.
Bon, on a envie de se dire, est-ce bien raisonnable tout cela? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de nous dédouaner de notre propre responsabilité, Anissé?
Bah évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Penser qu'on peut résoudre tous nos problèmes avec de l'innovation technologique. Vous savez, certains sont persuadés qu'on pourrait rendre Mars habitable et aller s'y installer si la Terre devenait complètement invivable. Évidemment, tout ça, c'est du fantasme. C'est difficile à admettre, ça va être compliqué, mais on n'a pas le choix. Si on veut laisser une Terre habitable à nos descendants, bah, il va falloir aussi changer nos habitudes.
Il n'y a pas de plan B.
Non, merci beaucoup, Anissé Mbida. C'était l'innovation sur Europe 1.
Europe Matin.
6h50, très bon réveil sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Amis dans la vie, ennemis sur le court, Roger Federer et Rafael Nadal vont disputer ce soir ensemble les doubles de la Laver Cup. Probablement le dernier match du joueur suisse avant sa retraite pour l'occasion. Il s'est autorisé un dîner hier en grande pompe avec Nadal évidemment, mais aussi Novak Djokovic et Andy Murray. Faut-il interdire l'accès aux réseaux sociaux? Question aujourd'hui sur Europe 1 pour notre vendredi thématique. Comme chaque semaine en tout cas, on y passe beaucoup de temps, en moyenne 2h29 par jour. Plus d'un tiers des utilisateurs s'en servent pour s'informer ou se désinformer, tout dépend des comptes que l'on suit. Et puis en Ukraine, début aujourd'hui des très controversés et même condamnés référendum sur l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie, annoncé par Moscou en début de semaine.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Argentine avec notre correspondante Flora Genoux. Bonjour.
Bonjour.
De quoi parlent les journaux chez vous ce vendredi ?
Eh bien, de la rupture de stock des vignettes du célèbre album Panini de la Coupe du Monde de foot avec les équipes en compétition et les joueurs. Il y a une fièvre pour l'achat de ces images que je n'avais jamais vécues comme commerçant, raconte le propriétaire d'un point de vente interrogé par le quotidien Clarín à Buenos Aires. Une fièvre qui traduit l'impatience avant le début de la compétition, analyse le journal. Face à l'absence d'offres dans les points de vente officiels, un marché parallèle s'est développé avec des prix deux fois plus élevés, relève le journal économique Bae Negocios. Une situation qui a provoqué une réunion au sommet cette semaine entre le gouvernement, l'entreprise Panini et le syndicat des points de vente, rappelle Ambito Financiero. Le gouvernement a réclamé plus de transparence dans la commercialisation des vignettes.
Nous partons maintenant pour l'Irlande du Nord, territoire du Royaume-Uni avec vous, Laura Taouchenov. Que lit-on à la une de la presse ?
Eh bien, un chiffre historique. Pour la première fois depuis la création du pays, les catholiques sont plus nombreux que les protestants. C'est ce que rapporte le Belfast Telegraph. Alors, le journal précise qu'il ne faut pas toujours associer la religion aux convictions politiques. Mais ces résultats ont évidemment un sens très symbolique. Plus il y a de catholiques, plus il y a de chances pour que les pro-réunifications soient majoritaires, eux aussi, conclut l'Irish Mirror. Ce recensement devait être publié il y a une semaine déjà, mais il a été retardé en signe de respect pour la reine. Et on le comprend, puisque l'Independent dévoile que de moins en moins de personnes se sentent britanniques, alors que plus 25% se considèrent uniquement irlandais.
Et nous voici enfin en Italie avec vous, Antonino Gallofaro. Avant les élections ce week-end, l'extrême droite aux portes du pouvoir, de quoi traite la presse italienne ce matin ?
De la fin de campagne électorale des partis de droite réunis hier soir en meeting. Le centre droit est dans la place, titre l'agence de presse Ansa. La place en question, c'est celle du peuple à Rome, où Giorgia Meloni, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi ont partagé la scène à 3 jours des élections législatives de dimanche. Ce sont surtout les paroles de la leader de Fratelli d'Italia qui sont mises en avant dans les médias. Nous sommes prêts à restituer la liberté et orgueil à l'Italie. Et par exemple, la citation choisie par il Corriere della Sera pour son titre, dédiée à la favorite pour devenir la prochaine première ministre. Mais la République, elle, n'oublie pas Matteo Salvini, le patron de la Ligue, qui a laissé entendre vouloir revenir au ministère de l'Intérieur. Le quotidien rappelle ce qu'il a lancé devant plusieurs milliers de personnes. « J'ai bloqué l'arrivée des migrants. Je ne vois pas l'heure de le refaire. »
Merci Antonino Gallofaro. Merci à nos correspondants. 6h53. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin. Il est 6h56. Excellente matinée avec Europe 1.
Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre. Bonjour Omblin. Alors
bonjour.
D'abord, un grand merci puisqu'il est 6h56. Je vais avoir le temps de parler, de vous raconter deux, trois trucs, de vous faire écouter un peu de musique. Bref, on va avoir un petit peu
au
le temps.
Au mois de mai, il prend à 6h45. Hein, je préfère vous prévenir.